Voilà. Alors, on est pour un cours de doctrine appliquée. J'aimerais encore continuer sur ce thème des émotions. Et ce soir, on va parler notamment d'une émotion qui... d'une solution que Dieu nous donne pour nos émotions, qui est la paix de Dieu. Parce que Dieu nous a créé des êtres émotionnels. Dieu nous a donné les émotions hein, pour apprécier la communion à laquelle il nous a appelés et pour apprécier la vie qu'il nous a donnée. Donc les émotions sont de Dieu, elles ont été créées par Dieu. Le problème, c'est que le péché a tout bouleversé, a renversé les choses, et souvent nous amène dans des problèmes émotionnels. Et nos sociétés aujourd'hui, du 21e siècle, et notamment en France, nous ne sommes pas gâtés. Émotionnellement, les gens sont blessés. Par l'éducation qu'ils ont reçue, par la façon qu'ils vivent, parce qu'ils ne connaissent pas la paix de Dieu, évidemment. Et donc, on va parler de ça un petit peu. J'avais ce verset à cœur dans Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8, qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et c'est pourquoi les gens vont pas bien même physiquement, parce que souvent quand on va pas bien émotionnellement, ça a des conséquences physiques. Hein. C'est une maladie psychosomatrice. Et donc les gens ne vont pas bien dans leur corps physique, dans leur santé physique, parce que justement ils n'ont pas la sagesse. Ils ont une sagesse qui est humaine, une sagesse. Ils sont eux-mêmes sages. Ils savent ce qui est bon pour eux. Ils gèrent leurs émotions d'une manière naturelle, sans la dimension divine, juste avec leurs propres moyens. Et en fait, on va le voir, ils vont s'enfoncer de plus en plus dans les problèmes émotionnels. Proverbe 4, verset 20, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours ». Verset 21, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui l'y trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Pour tout leur corps. Et là encore, c'est cette santé physique qui est le résultat d'une santé émotionnelle. Donc c'est tellement important. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être en bonne santé, dans tous les domaines. Mais parce qu'émotionnellement, on va bien. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de la solution que Dieu nous offre, qui est la paix de Dieu. Et nos émotions donc deviennent, ça c'est le premier point, nos émotions deviennent souvent problématiques et elles conduisent à la déprime, dépression, névrose, phobie, anxiété, obsession, colère, peur, et on pourrait multiplier les différents cas. Elles sont, on l'a rappelé, je le rappelle encore, mais on l'a déjà dit, elles sont en fait des réactions aux circonstances, aux stimuli, aux événements qui nous arrivent. Et la question, c'est comment on va répondre à ces circonstances, à ces événements, à ces situations qui nous touchent peut-être, qui affectent notre identité, qui affectent notre image propre, qui affectent notre valeur. Qui nous touche au profond, même quelquefois dans notre subconscient, on s'en rend même pas compte. Et bien souvent, nous sommes démunis. Et donc, on cherche des solutions naturelles, on recherche autour de nous un appui, de l'aide, pour savoir comment agir face à la souffrance. Aujourd'hui, dans une société où, dès qu'il y a de la souffrance, il faut trouver tout de suite une solution, hein. On est la génération Doliprane, hein, on a besoin, ou un autre auquel j'ai pensé, la solution de ce monde, c'est cortisone. Et c'est tragique parce que c'est vrai que la cortisone, ça efface un petit peu les symptômes. Mais ça ne traite pas le mal. Ça juste apaise pour continuer à vivre. C'est pour ça que ça m'intéressait de parler de ce mot. Parce qu'émotionnellement, c'est comme ça que le monde fonctionne. On apaise, on couvre, on met un bandage, on rafistole. Ça a l'air d'aller à peu près, mais le mal n'est pas traité. Et le mal, c'est qu'on n'a pas la paix avec Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le fond du problème. Vous êtes, la température est bonne ce soir. Hein, je suis là depuis 5 heures du matin pour mettre le chauffage. C'est pas vrai. Je lisais toutes les contre-indications pour la cortisone, mais on va passer sur ça. Mais vous comprenez l'image, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les solutions humaines, c'est de la cortisone. Mais le vrai problème n'est pas traité. C'est que tant qu'on n'a pas la paix avec Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos émotions. c'est que de la cortisone. Et quand la cortisone ne fera plus effet, ou elle vous aura tellement esquinté le reste, et que ça va se réveiller, ça va faire très mal. Ça fait très mal. Parce que quand on a des mots MAUX, des mots émotionnels, relationnels, nous employons des prescriptions humaines, puisqu'on est dans un monde qui ne veut pas de Dieu. Alors là, je parle du monde dans lequel nous vivons, qui a rejeté Dieu et qui a ses problèmes émotionnels. Nous, on a une solution. D'accord ? Mais faut-il vouloir l'écouter ? Et faut-il vouloir l'appliquer ? Et apprendre à vivre avec les solutions d'en haut. Et quand souvent on a par exemple un problème relationnel avec un patron, ben, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Quelles sont les solutions humaines ? Chercher un appui, on va chercher un collègue avec qui on peut parler, hein, et qui va être bien d'accord avec nous. Ah oui, le patron, c'est un méchant, le patron. Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas juste ce qui t'arrive. Et peut-être qu'il peut y avoir des injustices, je veux dire, qui d'entre nous peut dire qu'il est juste à 100%. D'accord ? Donc les autres aussi, ils sont au-dessus de nous. Hein. Mais quelquefois, on va être aussi... simplement confronté à nos limitations, à nos faiblesses, à notre incapacité. Et là, qu'est-ce qu'on fait là ? Là, on va trouver un bouc émissaire. On va trouver un fautif. C'est la faute de mes parents. La faute de ceci, c'est la faute du président. C'est la faute de mon prof qui un jour m'a blessé. C'est la prof de mon voisin qui a fait ceci, cela. Voilà. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. Si on a un problème de couple, c'est forcément l'autre. C'est l'autre. C'est pas que moi, c'est l'autre. De toute façon, il ne comprend rien. Rien. C'est vrai. Une femme va dire, mais mon mari ne comprend rien. Il est déconnecté complètement. Et le mari va dire la même chose de sa femme. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver un collègue à qui il va en parler. Elle va trouver une copine à qui, autour d'un café, on va en parler. Et vous voyez ce que ça va apporter. Et on va juste dire les problèmes, critiquer l'un, critiquer l'autre. On va trouver un apaisement parce qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Ça, là, c'est... quand même, j'ai raison. Et on ne dit pas tout. Hein. On ne dit que le côté qu'on veut bien dire. Donc, on cherche toujours un bouc émissaire. Et la tragédie, c'est que nous, qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, on peut vivre aussi comme ça, naturellement, à chercher un bouc émissaire humain. Mais nous, on en a un bouc émissaire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ est notre bouc émissaire, n'est-ce pas ? Lui, il a accepté de tout prendre. Toutes les accusations, toutes les fautes, toutes les peines, toutes les erreurs, tous les manques, toutes les faiblesses, toutes les... Il a tout pris. Il a accepté d'être notre bouc émissaire. Et... Il a pris nos injustices. Il a pris celles du monde entier, la Bible dit. Hein. En 1 Jean 2:2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Même pour ceux de ton ennemi, de celui avec qui tu as un problème. Parce que les problèmes émotionnels, ils ont souvent, pas que, mais ils ont souvent une origine relationnelle. Souvent. Familiale, le couple, le travail, d'accord ? Hein, le décès de quelqu'un de proche. Enfin, je veux dire, c'est souvent... Il y a d'autres choses, évidemment, hein, mais beaucoup de problèmes relationnels causent des troubles émotionnels profonds. Et la bonne nouvelle pour nous, Ésaïe 53, verset 5. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et là, la bonne nouvelle, c'est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix, on peut l'avoir parce que lui, il a pris. Il a pris la faute, il a pris l'injustice, voilà, on a un bouc émissaire. C'est la bonne nouvelle. C'est le bon, celui-là. C'est pas accuser un autre. Ça veut pas dire que les autres n'ont pas des torts, ça veut pas dire qu'on n'a pas subi d'injustice. Mais c'est pas en réglant nos comptes que... Si tu vas, je sais pas, si tu as été abusé et que tu vas tuer celui qui t'a abusé, tu vas pas résoudre ton problème. Tu vas en rajouter un problème. Émotionnellement, ça va pas résoudre le problème. Je dis pas qu'il doit pas y avoir la justice des hommes, hein, dans ce que on en a besoin. Mais comprenez-moi bien, restons sur le plan émotionnel, hein, et par rapport à nous, à la dimension que nous avons d'avoir Dieu dans nos vies. Ce monde est malade émotionnellement parce qu'il refuse la solution de Dieu. Il refuse la paix que Dieu offre, la paix que Jésus est venu apporter. Au lieu de venir à la vérité, à la lumière, en fait, ce monde s'enfonce dans une spirale qui le rend complètement prisonnier de ses propres émotions. Et en fait, à la fin, il ne sait même plus comment gérer. Et là, j'ai marqué que la solution que l'homme a trouvée, parce que quand on rentre dans cette spirale-là, jusqu'où on va? Eh bien, pour de plus en plus de personnes dans nos sociétés, on arrive à la camisole de force. Non, la camisole chimique. On ne pense plus, on ne ressent plus rien, on vit, on est des zombies. Et comme on ne sait plus gérer ses émotions, ben voilà, on te met des cachetons. Tu ne souffres pas, mais tu ne peux pas te réjouir non plus. Ben, je veux dire, tu es pas là. On t'éteint. C'est tragique. Ça, c'est la solution des hommes. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, attends, mais... Parce qu'on dira, moi, ça m'arrivera pas. Et tu sais pas si ça peut pas t'arriver. Il suffirait de 2-3 coups qui arrivent un peu durs, et peut-être que tu peux te retrouver à devoir prendre cachet sur cachet et te retrouver comme un peu un zombie. Hein. Avec une camisole chimique, pour arrêter de penser. Parce que le problème, c'est ça. On pense mal, puisqu'on ne pense pas avec Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple dans le livre de Rois, 1 Rois, chapitre... La Bible est extraordinaire. La Bible est extraordinaire. Parce qu'il y a tout dans la Bible. Et on va lire 1 Rois, chapitre 21. C'est l'histoire d'Akab. Alors vous allez me dire, mais Akab, c'était pas un exemple. Non, c'était pas un exemple pour nous, mais c'est un exemple d'enseignement pour éviter de vivre comme lui a vécu, tout simplement. Et donc, au chapitre 20, Akab vient d'avoir une victoire contre l'ennemi. Et au lieu de faire ce que Dieu... asseyez-vous, hein, il y a une place là. Là-bas. Au lieu de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire par les prophètes, il a en fait épargné le roi qui était l'ennemi. Et vous savez, j'aimerais vous dire que par application, c'est que nous, des fois, on est dans la chair naturellement. Au lieu de tuer l'ennemi, on joue avec l'ennemi. Et ne pensez pas que l'ennemi va être gentil avec vous. Tu lui laisses un peu de place, et il va reprendre toute la place. Et il ne veut pas juste rester dans un coin, il va vouloir dominer. Donc quand Dieu il demande de la mort à certaines choses dans nos vies, certaines mauvaises habitudes, ce n'est pas de jouer un peu avec. Alors ça ne veut pas dire que des fois on ne peut pas retomber, mais voilà, comprenez ce que je veux dire. Si tu joues avec l'ennemi, il reprendra ses droits sur toi, et il ne te laissera pas tranquille. Donc quand Dieu dit, il faut tuer l'ennemi, il faut tuer l'ennemi. C'est de manière pas physique, hein. D'accord. À la fin de ça, il y a un prophète qui vient, on n'est pas nommé ce prophète, mais il y a un prophète qui vient s'adresser à lui et qui lui dit que, au verset 42 du chapitre 20, il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. C'est pas des bonnes émotions, ça. Et il arriva à Samarie. Donc, il est rentré pas... Il avait une victoire, pourtant. Hein ? Mais parce que, justement, il n'a pas été radical avec le péché, avec l'ennemi. Dieu parle et il est triste et irrité. Verset 1 du chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité. Tiens, c'est des émotions récurrentes. Hein. Triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Oh, il fait un petit caca nerveux. Et lui aussi fait un caca nerveux. Triste, irrité. C'est pas des bonnes émotions, ça. Quand on vit dans la chair, c'est souvent des émotions qu'on expérimente parce qu'on est confronté aux autres et les autres, ils pensent pas toujours comme nous, ils sont pas toujours d'accord avec nous, ils font pas toujours tout ce qu'on veut qu'ils fassent. Voilà. Ça, c'est la vie. Hein ? On s'en rend compte. Parce que quand on est enfant, on pense qu'on peut arriver un peu à manipuler tout le monde parce qu'on est très fort quand on est enfant. C'est pour ça que l'éducation des enfants, c'est important, qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas manipuler parce que quand ils sont adultes, s'ils pensent qu'ils peuvent manipuler et qu'ils vivent comme ça... en fait... Le problème d'Akab, c'est qu'il est roi. D'accord ? Et quand on est le roi de notre vie, qu'on n'a pas un roi au-dessus de nous, et qu'on veut se soumettre à personne, on va se retrouver souvent confronté à des relations où forcément on va être irrité, triste, et on va bouder, on va faire une petite crise nerveuse. Hein ? Et quelle est la solution ? Alors lui, il était mal entouré. Il était marié, mais pas avec la bonne personne. Et sa femme, verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» S'inquiète, il va perdre du poids, le pauvre. Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? » Oh, c'est qui le patron là ? C'est toi, tu es le roi, c'est quoi le problème ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Ah, t'as un problème ? Bah, tu le résous. Tu trouves les personnes qui vont le résoudre à ta place. Tu t'appuies sur les personnes qui vont le résoudre à ta place. Et il va avoir son terrain. Vous savez comment il va avoir son terrain ? Parce que sa femme va monter tout un... On n'a pas le temps de le lire, mais vous pourrez le lire à la maison si vous voulez ce soir. Elle va envoyer des lettres aux anciens de la ville pour leur dire de trouver des gens qui accusent Naboth de Jizréel et qu'il a blasphémé le roi et qu'il a blasphémé Dieu, qu'il soit lapidé et quand il sera mort, il prendra son terrain. C'est une façon de résoudre les problèmes émotionnels. Tu élimines le problème. Tu as un problème avec quelqu'un, tu mets une croix dessus, tu l'élimines. Alors, quelquefois, il faut... Selon les relations qu'on a, il faut savoir prendre des distances avec des relations. On est d'accord. Mais c'est la cortisone. On n'a pas le problème, c'est qu'il est, il est là, le problème. C'est pas Naboth le problème, c'est toi le problème. C'est ta vision de toi, c'est ta position, c'est que toi tu es le roi, et tout doit te aller comme toi tu veux. C'est pas comme ça que le monde marche. D'accord ? Et donc... Donc il va avoir son terrain. Et à la fin, au verset 16, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Voilà. C'est réglé. Sauf qu'après, Élie arrive et puis il lui raconte. les conséquences. Et là, il va y avoir un fait extraordinaire, c'est que Akab va avoir un moment d'humilité et va se repentir de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il a laissé faire, ou de ce qu'il a fermé les yeux. Parce que c'est pareil, hein. Non, non, ça va se faire, quelqu'un va le faire, ou non, derrière, c'est toi le problème. D'accord ? Et quand on est les rois de nos vies, nos solutions pour apaiser nos émotions seront toujours aux dépens des autres. Si on n'a pas Jésus-Christ pour roi dans notre vie, c'est moi le roi et c'est les autres qui vont payer. Moi, j'ai assez souffert. Et comme la cortisone, ça fonctionne pour un temps. Je pense qu'il a été dans son champ, et quand il a regardé son champ, enfin, le champ de Naboth qui était maintenant le sien, qu'il a pris possession, voilà, il était content. Mais je pense que les légumes qu'il a fait pousser dedans, il a dû avoir du mal des fois à la digérer. Parce que c'était pas juste. Parce que c'était la méchanceté. Parce que c'était le mal. Et que tôt ou tard, si tu sèmes le mal, tu le récoltes. Et le poison était dans ses légumes, j'en suis sûr. Il avait du mal à les digérer. Et nous, la solution, elle est là. Elle nous attend. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'elle nous attend, cette solution. Et j'aimerais qu'on lise un... Parce que nous, on a un Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir. Toujours prêt à nous écouter. Et dans le cœur de père, le cœur d'amour, le cœur de compassion, il est jamais loin, Dieu. Même si peut-être dans nous, notre relation avec lui émotionnellement, on a l'impression peut-être qu'il est loin, mais il n'est jamais loin. Il est là, il est prêt, prêt à parler, prêt à nous rencontrer, prêt à nous consoler. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est que peut-être si on passe par une affliction, les amis, c'est pour découvrir les consolations de Dieu. Et qu'ayant été consolé, on ait quelque chose à apporter aux gens. Au lieu d'aller prendre quelque chose aux gens. Au lieu d'aller voler quelque chose aux gens pour combler notre vide. Mais quand on est rempli des consolations de Dieu, le vide, il n'y est plus. Vous comprenez ? Le néant, le non-sens, la vanité, on est rempli de quelque chose. Et la souffrance, j'aimerais vous dire... Ne pensez pas que vous pouvez éviter la souffrance. Ou alors sinon, prenez de la cortisone, mettez-vous sous une camisole chimique, ne pensez plus, et là, ça ira. Mais vous n'allez pas vivre. Si vous vivez, vous allez souffrir. Nous allons souffrir. Mais comment allons-nous souffrir ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette souffrance ? Va-t-on accuser Dieu ? Parce que souvent, c'est ça. J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui m'est proche, et il est en colère après Dieu. Il est en colère après Dieu. Il accuse Dieu. Pour des événements tragiques, que la mort d'un adolescent, d'un enfant, c'est pas possible. S'il y a un Dieu, c'est pas possible. Mais on peut mourir jeune, on peut mourir dans le ventre de sa mère. Ça, c'est pas un problème. Mourir adolescent, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on l'accepte. On le fait même. Ça, c'est pas un problème. Mais adolescent, ça, c'est pas possible. Mais parce qu'on ne comprend pas. Parce que notre vision, elle est... C'est moi le roi et Dieu doit être à mon service. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les choses sont à l'envers. Et c'est pas moi, avec ma société et sa façon de penser, qui pouvons avoir l'objectivité pour juger ce que Dieu est en train de faire. Qui, lui, est omniscient, connaît tout, aime tout le monde, a donné son fils, veut que tout le monde soit sauvé, et ne s'impose jamais. Alors, on va lire une autre histoire. Un peu plus avant, dans le livre de Samuel, premier chapitre. C'est l'histoire d'Anne. Mesdames, vous allez aimer. Messieurs aussi, d'ailleurs. Alors, on se retrouve dans la période, à la fin du livre des juges. Enfin, à la période du temps des juges. Et c'est Anne, c'est la maman de Samuel, du grand homme de Dieu Samuel. Et donc, on va lire tout simplement. Il y avait un homme, verset 1, il y avait un homme de Rama de Taïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Éphraïm. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, pour lui offrir les sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est carrément dit, hein. C'est pas juste le hasard, le problème, c'est pas... Non, c'est... Voilà. Des fois, Dieu permet des problèmes dans nos vies. Mais c'est parce qu'il a un plan plus grand. D'accord ? Alors, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Évidemment, la situation de la polygamie, c'est pas d'un... Ça se faisait malheureusement, mais c'est pas le cœur de Dieu, évidemment. Et ça a posé des problèmes. Donc, vous imaginez deux femmes comme ça, jalouses, et l'une qui essaye de dominer l'autre, de rendre l'autre complètement à faire disjoncter, hein, émotionnellement. Alors, on peut imaginer, hein, pour une femme qui veut avoir des enfants, qui ne peut pas avoir des enfants, à cette époque-là, si tu n'avais pas des enfants, tu ne servais à rien. En gros, tu n'avais aucune valeur. Pourtant, son mari l'aimait. Il en prenait soin. D'accord ? C'était les solutions humaines qu'il apportait. Et verset 7, et toutes les années il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Il faut comprendre. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais il n'y a pas de solution humaine qui puisse combler la situation. Et cette femme, elle savait où était la solution. Et elle souffrait. Est-ce qu'elle souffrait? Est-ce qu'il y avait de quoi disjoncter? Est-ce qu'il y avait de quoi déprimer? Est-ce qu'il y avait de quoi être en colère? Est-ce qu'il y avait de quoi s'irriter contre Dieu? Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Anne se leva, verset 9. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, verset 10 de 1 Samuel chapitre 1. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Est-ce qu'elle a de l'amertume? Oui. Est-ce qu'elle est souffrée? Oui. Est-ce qu'elle pleurait? Oui. Mais devant qui elle pleurait? Ça, toute la différence. Qu'est-ce qu'on fait avec nos souffrances émotionnelles? À qui on les apporte? Parce que là, elle aurait pu trouver quelqu'un à accuser, hein. L'autre femme, hein. Elle aurait pu trouver des moyens de se... Hein, de jouer, de se défendre. Non, elle est allée devant Dieu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Elle restait longtemps. Vous savez, dès qu'on a un problème, nous, il faut que ça soit résolu tout de suite. Hein. J'ai prié, et pourquoi c'est pas résolu, là? J'ai prié, quand même. Oh, Dieu, tu fais quoi, là? Tu es aux 35 heures, ou c'est quoi le problème? Des fois, ça, c'est pas, j'ai prié, et je claque des doigts, et Jésus, il vient, il descend, et tout est réparé, non? Ça peut prendre du temps. Apparemment, c'est pas la première année qu'elle montait à... C'est pas la première année où il y a ces problèmes, elle prie et ça arrive. C'est peut-être la 2, 3, 4, 5, 10e année. Qu'est-ce qu'elle fait pendant toutes ces années, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand ça dure? Eh bien, on a peut-être de l'amertume, mais on la dépose à peu vers la bonne personne. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, et en plus, l'homme de Dieu, là, il a l'impression que... Attends, ça y est, elle est ivre, elle est... C'est quoi ça? C'est une femme de mauvaise vertu qui est là, qui... Qu'est-ce qu'elle fait dans le temple? Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme... Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Peut-être que Dieu permet des fois des situations pour qu'on répande son âme devant lui. Ah non, on ne peut pas aller jusque-là. Oui. Est-ce qu'on peut être transparent devant Dieu? Ouais. On répand dans tout. Et Dieu permet qu'on arrive des fois au bout de nous-mêmes. Parce que des fois, on se fait des films sur nous-mêmes. D'accord? Et quelquefois, l'épreuve nous amène au bout de nous-mêmes. Et là, on peut répandre notre âme. Et c'est libérateur. C'est libérateur. Verset 16. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » C'était un excès. Ça débordait. C'était aux limites du supportable. Donc on ne peut pas dire, des fois, nous, on souffre, mais ce n'est pas aux limites du supportable. Là, on a une femme qui est aux limites du supportable. Élie reprit la parole et dit. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a pas beaucoup de propositions comme ça dans l'Ancien Testament. Il dit « Va en paix. » Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix. Attends. Ce n'est pas la souffrance que j'ai dans... Va en paix. L'homme de Dieu. Dieu parle. Va en paix. C'est la paix de Dieu qui donne la solution. Et regardez la verset qui suit. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Quelque chose qui s'est passé. Il y a une rencontre qui s'est faite. Il y a une guérison qui s'est opérée. Elle n'était plus la même. Parce qu'elle a rencontré les consolations de Dieu. Elle a rencontré la présence de Dieu. Elle a la paix avec Dieu. Elle a de la valeur. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant qu'elle n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant qu'elle n'est pas acceptée et aimée par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on souffre ou qu'on a vécu un problème ou qu'il y a eu une injustice dans notre vie que Dieu nous a rejetés ou ne nous aime pas. Dieu a un plan plus grand. Si on est prêt à répondre notre âme, si on est prêt à s'adresser à lui et à connaître ce Dieu et à découvrir ce Dieu d'amour et de grâce. Verset 19, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Voilà, on reprend, on continue. Attends, mais oui, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a une parole, il y a une promesse. Il y a la paix de Dieu qui est comment dans mon cœur. La fin du verset dit « Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. » Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ah, ça change tout. Et ce Samuel, j'aimerais vous dire, il va être en bénédiction pour Anne, mais pas que pour Anne. Pour Dieu, pour Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la souffrance, il y a une provision qui est née, qui va dépasser simplement le naturel. Quand on plie le genou. Quand on verse son âme devant Dieu. Quand on accepte, quelque part, de plier le genou. Donc il y a deux façons. Elle aurait pu être irritée, elle était triste, mais elle a su quoi en faire. Elle a su aller au bon endroit. Acab, il est allé voir sa femme. Il a trouvé une solution naturelle. D'accord ? Et ça a été pour sa perte. Un peu plus, mais il était tellement déjà enfoncé dans le mal que... Et Dieu, lui, nous a donné un trône de grâce par lequel, au moyen de la prière, on peut se présenter. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, donc c'est Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Ça va être difficile des fois. Quelquefois, j'aimerais vous dire, on va perdre peut-être, on a presque l'impression qu'on va perdre la tête, hein, à l'intérieur. Mais, la bonne nouvelle, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoin. Est-ce que Dieu n'a pas tout pourvu? Est-ce que Dieu n'a pas tout donné? Est-ce que Dieu n'a pas la solution pour nous? La question, est-ce qu'on va accepter cette solution? Est-ce qu'on va choisir cette solution? Parce que quand on souffre, souvent, la tragédie, à l'origine, souvent un problème relationnel, on parle. Et on parle trop, et on parle mal. Et on ne parle pas aux bonnes personnes. Et, quelque part, on rajoute au problème qui est déjà là. Et après, on rentre dans une spirale. Et il y en a qui vont jusqu'à la camisole chimique. Hein. Mais si simplement on venait directement à Jésus, le grand souverain sacrificateur, celui qui est prêt à nous écouter, à nous accueillir, qui est passé devant, qui connaît, qui sait. Il n'est pas juste « Ah ouais, ça tombe. » Non, mais il sait, il a pleuré, il a passé par là avant toi. Il te comprend. Il peut s'identifier. Il n'est pas insensible. Il sait. Et c'est ce dont on a besoin, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de grands discours, on a besoin de quelqu'un qui nous comprenne. Et quelqu'un qui nous apporte une solution, un secours. Et quelquefois, j'aimerais vous dire, c'est pas que c'est un coup de baguette magique, c'est juste une promesse, c'est juste sa présence, c'est juste sa consolation. Et on peut aller. Et on n'est plus pareil. On n'est plus pareil. Et au lieu que ce soit l'autre qui change, c'est moi qui change. C'est merveilleux. Vivre dans la paix de Dieu. Ah pardon, j'ai manqué un passage extraordinaire dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. On va le lire ensemble. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. On va conclure sur ça pour ce soir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Moi non, j'ai envie de pleurer, je suis triste, je suis en colère, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en ai marre des autres, j'en ai marre de moi, j'en ai marre de Dieu, j'en ai marre de tout le monde. Émotionnellement, on peut facilement être comme ça. Donc, vous savez, des fois, quand on est comme ça, un suppôt et au lit. Demain, ce sera un nouveau jour. Et des fois, sérieusement, je me souviens d'une sœur qui nous est très chère. Peut-être que vous la connaissez. Certains la connaissent ici. Qui a vécu des choses familiale, relationnelle, très très difficile. Très très difficile. Comme Anne a disjoncté complètement. Et elle disait que des fois, quand c'était trop compliqué, trop difficile, juste aller se coucher, quoi. Arrêter de penser, juste, ok, demain, ce sera une nouvelle journée. Donc des fois, c'est ça. C'est, ok, Seigneur, je te remets ça, je vais me coucher, ça t'appartient. Il faut plier le genou, hein. Il faut lâcher les choses. Pas dire, oh non, il faut que je règle le problème. Non, tu ne veux pas le régler le problème. Laisse-le à Dieu et va te coucher. Mais je ne peux pas dormir. Seigneur, aide-moi à dormir. Pour ça, je suppose, ça aide. C'est pour détendre un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que si on veut tellement, tellement résoudre la chose, tellement régler le problème, bon, ok, Dieu, tu ne t'en occupes pas, donc je vais m'en occuper. C'est ça que ça veut dire. N'est-ce pas? Donc réjouissez-vous, ça veut dire ok, je vais me réjouir. Putain, tu reçois une mauvaise nouvelle, peut-être que tu ne sautes pas de joie dès que tu entends la nouvelle, je suis d'accord. Mais est-ce que par la fin on ne peut pas se réjouir? Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette situation? Qu'est-ce que Dieu va faire dans cette situation? Au lieu de voir que le problème, voyons ce que Dieu va pouvoir faire dans la situation. Peut-être que ça change notre perspective des choses. Et ça nous donne une capacité pour affronter la réalité. Parce qu'on ne vit pas dans le déni. Hein. On ne dit pas que la chose n'existe pas, le problème n'existe pas, il existe. Mais Dieu, il n'existe pas, Dieu. Et il n'est pas plus grand que le problème, Dieu. Ah non, il n'est pas plus grand. Si, mais bien sûr qu'il est plus grand que le problème. Et c'est même lui qui l'a permis, le problème. C'est pas lui qui a permis qu'elle soit stérile. Donc, regardons ce que Dieu va faire. Vous avez 3 secondes pour péter les plombs, mais après, on remet ça à Dieu et on se réjouit. Par la foi. Par la foi. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Aïe, 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 aïe. C'est ça le problème. C'est que nous, on s'inquiète de tout. Et là, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, ça nous vole la paix de Dieu, n'est-ce pas? L'inquiétude, c'est qu'on se met à la place de Dieu, on est le roi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En plus, on a des besoins, on a des situations, on a des montagnes, on a des faiblesses, on a des impossibilités, on a des tragédies, on a... Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, peut-être comme Anne, là, dans le secret, on déverse tout devant le Seigneur. Et la solution est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est pas avec ton intelligence et tes raisonnements et tes calculs et tes solutions humaines à deux balles que tu vas t'en sortir. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu a permis ça pour que tu le rencontres et pour que tu réalises qu'il est Dieu. Et que tu lui laisses la place d'être Dieu dans ta vie. Parce qu'il peut être Dieu, tu lui laisses pas la place. Puisque c'est toi le roi. Et donc si t'as pas la paix de Dieu, ben, il va falloir trouver des substituts. Et ça sera pour ta perte. Dieu attendra. Mais en attendant, tu vas souffrir et tu vas faire souffrir les autres. Parce que c'est ça, quand on souffre émotionnellement, on fait souffrir les autres. Quelqu'un qui est par exemple lunatique, il ne sait jamais sur quel pied de danser avec lui, il est bien, il n'est pas bien, on peut dire ça, on ne peut pas dire ça. C'est un tyran. D'accord ? Et il fait souffrir tout le monde. Un père qui est comme ça dans une maison, c'est tragique. D'accord ? Et tout le monde, voilà. Mais il n'est pas plus heureux pour autant. Peut-être que dans une certaine mesure, il domine sur son petit royaume, mais hein, il va péter à la figure son royaume. Là, il va faire mal. Alors, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Aïe, 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 c'est ça le plus dur. C'est que nos pensées, elles courent dans tous les sens. Et Dieu, c'est quoi qui va garder nos pensées ? C'est la paix de Dieu. C'est Dieu lui-même. Je dirais, soit c'est vrai et ça marche, soit il faut qu'on ferme le livre et qu'on aille faire autre chose. On va regarder un match de foot ce soir et la Coupe de France, on fait autre chose. Mais ça marche. Alors je ne dis pas que c'est un coup de baguette magique, hein. Mais quand on découvre cette paix, je peux vous dire, 99,9% de nos problèmes émotionnels sont déjà résolus. C'est tout simple. N'est-ce pas ? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et j'avais fait un petit... Est-ce que j'ai fait ça ? Bon, je vous dirai ça la prochaine fois. Parce que là, il faut qu'on s'arrête. Je vous dis le résumé, et on le reprendra certainement. Mais la paix, j'ai pas le temps de développer les versets, mais la paix de Dieu va avec la justice de Dieu. Il n'y a pas la paix sans la justice. La justice, c'est Christ à la croix. C'est le péché qui est réglé. D'accord ? Et il n'y a pas de justice sans la foi. Le juste vivra par la foi. Et il n'y a pas de foi sans la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout commence à écouter la parole de Dieu pour arriver à la paix. Vous voyez ? Paix, justice, foi, parole. Donc parole, foi, justice, paix. Pas de raccourci. Nous, on voudrait le truc, le médicament qui fait qu'on a la paix. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la parole. C'est ce que je pense. C'est comment je pense. C'est comment je vois les situations. C'est qui est Dieu dans ma vie. Et pour avoir la foi, ben, il faut écouter la parole de Dieu. Hein. Et moi, elle ne m'est pas tombée dessus. On a tous une mesure de foi. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est comme une graine. Si tu l'arroses, si tu la mets dans la bonne terre, si tu la nourris, elle va grandir. Si tu ne la nourris pas, ta foi, elle va rester en toi. Ce sera toi le centre de ta foi. Verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Ah, donc tout ça, ça a une transformation de vie carrément. C'est que c'est pas juste une connaissance, c'est que ça rentre dans mon cœur. Et ça m'amène à une autre façon de vivre, une autre façon d'agir, une autre façon de penser. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si le Dieu de paix est avec vous, j'aime vous dire, on va aller bien. Émotionnellement, physiquement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et encourage-nous, Seigneur, à vivre avec le Dieu de paix, parce que lui, il veut vivre et veut nous apporter, il est venu pour nous apporter la paix. Et on verra ça la prochaine fois. Au nom de Jésus. Amen. Amen.